Aujourd'hui, la prostitution explose. Sur les trois dernières années, elle a été multipliée. 75% de ces malheureuses sont des étrangères. La part d'arbitraire, Monsieur Pujadas, c'est que nous en parlions tranquillement parce que vous et moi n'habitons pas dans des quartiers où il y a des prostituées en bas de notre immeuble.
On dit de lui qu'il est le plus vieux métier du monde. C'est sans doute aussi le plus dénigré dans une société. Il est peu sécurisant. La prostitution, c'est l'activité d'une personne qui consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'individus, moyennant rémunération. Elle n'est pas considérée comme un délit. Par contre, le proxénétisme, l'exhibitionnisme et le racolage actif sont punis. Et dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure de 2003, la distinction entre le racolage actif et passif tend à disparaître. Il suffit d'avoir une tenue provocante pour commettre un délit. Selon l'Office central de la répression des trafics d'êtres humains, il y a au moins 15 000 à 20 000 prostituées en France, dont 60% sont d'origine étrangère. Nicolas Sarkozy, que l'on a entendu en préambule, alors ministre de l'Intérieur, a donc exagéré les chiffres. Avec Marie-Geneviève Zaroukian, directrice de la Babote, association membre de l'Amicale du Nid, qui joue un rôle important d'accueil, de soutien et de prévention en matière de prostitution, nous allons parler du cas particulier de ces prostituées étrangères exerçant en France ainsi que des prostituées hommes d'origine marocaine à Montpellier. La difficulté de les aider, de communiquer, et nous évoquerons aussi la présence des réseaux mafieux qui organisent leurs activités.
Si on parle du public que nous recevons, c'est-à-dire qui vient jusqu'au service, une partie importante de ce public est en lien, plus ou moins étroit, avec le Maghreb, souvent avec le Maroc. Et une des spécificités aussi de la prostitution à Montpellier, c'est qu'il y a un nombre important d'hommes, hein, puisque ce n'est pas l'image qu'on a habituellement de la prostitution. Je pense que cette incidence a certainement à voir avec la façon dont les pratiques homosexuelles et l'homosexualité est traitée dans les pays dont ils viennent, en particulier les pays du Maghreb, où il n'est pas confortable, c'est le moins qu'on puisse dire, d'évoluer et de vivre d'une manière libre, une sexualité hors norme. Et donc, c'est vrai qu'un certain nombre de garçons, là je parle bien des garçons, témoignent de ces difficultés qui ont pu les amener à prendre des risques énormes. De quitter leur pays, d'arriver ici sans trop savoir où ils arrivaient, comment ils y arrivaient, et en même temps donc de beaucoup de contraintes, et en même temps, au départ en tout cas, hein, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, avant d'être un problème, c'est une solution, la prostitution leur est apparue comme un espace où ils allaient pouvoir vivre leur homosexualité, et un espace aussi où ils allaient pouvoir gagner de l'argent, puisque au départ, beaucoup sont arrivés plus ou moins clandestins et donc n'avaient pas la possibilité de travailler. Je dirais que là, il y a des caractéristiques, une singularité territoriale. Après, au niveau de la rencontre dans la rue, pas mal de mes collègues rencontrent des femmes africaines. Je dis bien des femmes, là. Surtout dans le travail de rue, tel qu'il se développe sur Montpellier. On sait que l'incitation et les réseaux de proxénétisme ne sont pas absents. Ils ne sont pour autant... ils n'ont plus grand-chose à voir avec la représentation qu'on en avait il y a quelque temps, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de gros réseaux internationaux, etc. Mais assez souvent est mentionnée la présence de quelqu'un de ou proche de la famille ou proche du village, ou, etc., qui joue un rôle un peu clé pour... permettre la survie économique du village ou pour faciliter le fait de payer le mariage de la sœur qui est restée au pays. La prostitution joue un rôle un peu différent. Et en même temps que j'en parle, je ne peux en parler que très modestement, puisque nous, aujourd'hui, sur Montpellier, on a un peu de mal à tisser des liens proches avec ces femmes africaines qui acceptent bien sûr la rencontre, qui sont contentes qu'on leur donne des préservatifs, etc., mais qui dévoilent relativement peu de leur histoire, certainement pour des raisons aussi de protection personnelle qu'on peut comprendre. Et bon, voilà. Donc, au niveau de l'Afrique noire, après, il y a eu de manière relativement intense, y compris sur Montpellier, mais c'est moins vrai aujourd'hui, des filles de l'Est. Pour certaines, on a largement soupçonné un proxénétisme et un proxénétisme proche. Pour d'autres, c'était moins évident. Je pense que ce type de public existe toujours, mais plus il s'est déplacé un peu vers le Biterrois. puisqu'on entend sur la région de, je dis région de Béziers parce que ça peut aller jusqu'à Narbonne, enfin, etc., sur les routes, passablement parler de la rencontre avec des filles de l'Est. Les gens pensent qu'il est aisé de savoir si les personnes sont ou non drivées par les proxénètes. Et même pour nous, c'est pas évident du tout. Souvent, on le sait qu'après du long temps. Alors, quelquefois, il y a des signes, je veux dire, pendant un certain temps, quand les proxénètes évoluent de manière proche des lieux de prostitution, les travailleurs sociaux ont des indices. Je veux dire, pendant un certain temps, il y avait des téléphones qui sonnaient régulièrement, on voyait que les filles étaient sous pression, etc. Donc on repère soit qu'il y a la présence d'un proxénète pas loin, soit que dans le groupe de filles, il y a quelqu'un qui a une fonction de capot et qui donc surveille, manage, etc. C'est pas toujours évident à repérer. C'est pas évident pour nous. Je crois que c'est pas du tout évident pour les services de police non plus, qui, pendant pas mal de temps, nous ont dit « Mais non, il n'y a pas de proxénétisme. » Alors que nous, on avait vraiment le sentiment que ces filles-là, elles étaient pas libres, quoi. Qu'il y avait plein de choses qu'elles ne pouvaient pas dire. Pour certaines même, des difficultés à arriver jusqu'au service, quoi. Parce que leur emploi du temps était quand même bien surveillé. Donc, c'est sûr, pour le coup, que de toute façon, il y a des liens forts entre les phénomènes de migration et la prostitution. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prostitution locale, mais vraiment, très, très, qui se développe localement. Mais à mon avis, les modes de prostitution ne sont pas les mêmes, et l'identification en est que plus difficile. Ce qu'on observe sur les établissements scolaires ou à l'université, on en a parlé peut-être trop, même parce que petit à petit, tout le monde va penser que l'université, c'est vraiment le grand bordel, ce qui est quand même loin, loin, loin d'être le cas. Mais ce qu'on repère quand même, c'est qu'il y a quand même des jeunes qui aujourd'hui sont dans des situations de misère, de vraie misère. Les nouveaux pauvres, quoi, je crois, 18-25, parce qu'il y a des familles qui sont très, très en difficulté, et qui donc ne sont plus en capacité de soutenir leurs jeunes adultes financièrement, et que les jeunes trouvent des solutions. Alors, certes, on peut dire que c'est pas toujours pour se payer le nécessaire, mais où limiter le nécessaire quand on est étudiant et qu'on vit avec d'autres étudiants, c'est un grand débat, ça. Je veux dire, est-ce qu'il est indispensable d'avoir les portables, Internet? Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de ne pas les avoir. Alors après, bon, voilà. Mais la prostitution en France n'a pas fini de se développer. Je crois que ça, il faut en être bien conscient, malgré tout.
La prostitution locale serait peut-être un peu plus sécurisée, enfin en tout cas vous ne l'identifiez pas tout le temps, mais celle qui est en relation avec l'immigration forcément est beaucoup plus exposée, ça c'est ce que vous remarquez.
Ne serait-ce que, bon, que par leur itinéraire personnel, je veux dire, ils arrivent en France, ils n'ont pas la langue, ils n'ont pas, je veux dire, tout l'équipement culturel qui fait qu'on peut évoluer dans une société en se protégeant un minimum. Et puis maintenant, bien sûr, autre nouveauté que nous déplorons beaucoup, c'est toutes les mesures qui viennent à l'encontre. Hein, même si, d'un côté, et on le voit avec les nouveaux projets de loi qu'on commence à trouver sur Internet autour de la question des violences faites aux femmes, bon, on voit qu'il y a un désir de protéger des personnes qui seraient en situation de prostitution contrainte, étrangères. Il y aurait un désir de les protéger. Mais en même temps, toutes les lois relatives à l'immigration sont des lois qui ont encore augmenté leur mise en danger. Parce que, faut pas rêver, je veux dire, pour ces femmes-là ou ces hommes-là, quand on connaît les contextes des pays dont ils viennent, le fait de dénoncer des proxénètes lorsqu'on a de la famille dans les pays d'origine, le fait de, même si, vu les moyens des services de police, hein, au niveau international, je dis bien, on peut pas se faire l'illusion qu'elles peuvent, en toute sécurité, aller à la police et expliquer. Bon. Alors, apparemment, il y a des assouplissements qui seraient dans ce projet de loi sur les violences faites aux femmes, dont on attend beaucoup. On va voir. C'est clair que immigration et prostitution, ça crée une précarité qui est vraiment à prendre en considération, quoi.
Est-ce que j'ai une chambre à moi ?
Les draps, le plus souvent, ne sont même pas changés entre deux locations, mais seulement le linge de toilette. Dans certains hôtels, les lits ne comportent pas de couverture, mais seulement le drap de dessous.
Et la police ?
La police opère par rafle, interpellation, examen de situation. Les prostituées qui ne sont pas en règle sont dirigées vers des dispensaires ou des hôpitaux où elles peuvent être consignées le temps que durent les examens médicaux très complets avec prélèvements et analyses.
J'ai le droit de prendre un verre au café ?
La prostituée qui a un goût exagéré pour la boisson n'a qu'un faible rendement. On la considère comme indésirable car elle provoque du scandale.
Et si je suis enceinte ?
On serait tenté de croire qu'une prostituée se voyant enceinte va chercher à tout prix à se faire avorter. Ce n'est pas exact. Il est évident d'autre part qu'elle cherche à éviter la grossesse. Elle se drogue ou pratique des manœuvres lorsqu'il lui apparaît que celle-ci est possible. Mais lorsqu'elle se sait enceinte de façon certaine, il est rare qu'elle se fasse avorter.
Mais il faut accepter tout le monde ?
Être à la disposition de la clientèle comporte une conséquence à laquelle la prostituée, quelle qu'elle soit, ne peut se soustraire. Elle doit accepter n'importe quel client pourvu qu'il paie. Celui-là. 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 Celui-là.
Alors Marie-Geneviève Zaroukian, est-ce que vous avez un mode particulier de relation avec ces personnes issues de l'immigration ? Là, on parle de la barrière de la langue, c'est un des aspects, mais il y a peut-être l'aspect culturel aussi. Enfin, comment ça se passe avec eux ?
C'est un peu à réinventer. Parce que si on se disait, c'est les filles de l'Est, c'est que les filles de l'Est, à la limite, on embaucherait un médiateur qui vient de leur pays, ce qui s'est fait hein, dans certains sites. Ont été embauchés des médiateurs qui parlaient la langue et qui étaient aussi imprégnés par la culture. Simplement, on voit que les pays évoluent. Et on a eu affaire aux filles de l'Est, on a affaire de plus en plus aux Africaines. À Paris, on commence à parler des Chinoises. Nous ne pouvons pas, c'est impossible, avoir chaque fois des gens issus de tel ou tel pays. Ce qui certainement serait facilitateur, je le crois. Mais bon, voilà, ça c'est impossible. Donc après, le mode de rapport, l'entrée de la santé, je vais dire. Nous, notre média qui permet le premier contact, c'est tout bête, c'est tout simple. Hein, c'est à la fois le café, le thé ou le chocolat chaud quand on est dans la rue et qu'il fait froid. Ça, c'est bien, on apprécie, surtout la nuit. Et puis après, c'est aussi les préservatifs, et donc l'entrée qui va porter sur la santé. Et donc, on essaie d'échanger avec elles grosso modo, le message qu'on souhaite laisser passer, c'est « prends soin de toi ». Alors après, ça va aller des fois jusqu'à des accompagnements vers un service de soins, si il ou elle arrive à en formuler la demande. Notre premier contact, il est essentiellement centré là-dessus. Après, il y a des personnes qui arrivent plus aisément à venir ici que d'autres, c'est clair. Alors c'est assez mystérieux, quelquefois on ne comprend pas tout à fait les enjeux. Ils peuvent aussi venir ici acheter des préservatifs à prix coûtant, puisque nous en distribuons un certain nombre, mais nous leur proposons de venir quand ils ont besoin, donc ça aussi c'est une entrée. Mais c'est une entrée qui n'ouvre pas forcément dans l'au-delà de cet aspect-là. Mais assez souvent, on se dit quand même que maintenir ce lien, c'est offrir la possibilité que lorsque la situation sera trop dure ou lorsqu'il y aura besoin d'un vis-à-vis, elles pourront franchir la porte parce qu'elles l'auront déjà franchi. C'était ça aussi l'enjeu. On sait par exemple qu'avec les Africaines, ce qui serait bien, mais qu'on est incapable de faire pour le moment à cause de l'espace, serait d'avoir des ateliers, par exemple, de couture, le repas, c'est un temps où, de fait, dans la convivialité de la rencontre, certains qui ne sont pas habitués à venir peuvent venir s'ils ont une certaine possibilité d'organiser leur emploi du temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est vraiment un aménagement au cas par cas. Et c'est chaque fois l'histoire d'une rencontre entre deux personnes, je veux dire un travailleur social ici et la personne, qui vont permettre petit à petit de rentrer dans un lien ponctuel, puis un peu moins ponctuel, puis quelquefois régulier, et pour certaines très régulier par la suite. Voilà, mais c'est...
Qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? D'abord qu'une prostituée étrangère qui commettrait un délit, le racolage est un délit. On la raccompagnera chez elle, dans son pays. Je voudrais faire deux remarques. C'est que la prostituée victime, elle risque en France, parce qu'en France, elle est sous un réseau. Quand on la ramène chez elle, elle ne risque rien, parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat pour se livrer à la prostitution.
personne qui est ici en France de manière clandestine et qui se prostitue vient vers vous et vous dit je veux sortir de la prostitution, qu'est-ce que vous faites? Parce que finalement, vous, avec l'administration, peut-être que vous ne pouvez pas faire en sorte qu'elle ait ses papiers et ainsi de suite. Vous la dirigez vers une autre association?
On fait des maillages. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des associations qui sont plus spécialisées, par exemple par rapport à tout ce qui est droit et papier. Bon, donc on va s'orienter vers la CIMAD, bien que sur notre service, concernant la prostitution, on est assez bien informé de l'ensemble des droits. Et c'est vrai que pour le moment, la loi prévoit que s'il y a une démarche judiciaire, c'est-à-dire si elle est contrainte à la prostitution et qu'elle accepte de témoigner, c'est-à-dire pas forcément de déposer plainte, mais de témoigner, elle peut, dans certains cas, je suis très nuancée parce que ça marche pas à tous les coups, bénéficier de papiers provisoires qui vont lui permettre de rester en France, en tout cas au moins le temps de la procédure. À condition de rompre aussi avec le milieu prostitutionnel. Et ça aussi, c'est compliqué. Nous sommes en lien en particulier avec un réseau qui a été organisé par réseau contre réseau, je veux dire, un réseau de travailleurs sociaux qui propose de mettre à l'abri des personnes éventuellement qui sont dans des démarches de ce genre. Alors, on ne les mettra pas à l'abri à Montpellier. On va leur demander de renoncer à leur portable. On va leur demander... Je veux dire, ce n'est pas sans prix, ça. C'est même un prix qui quelquefois peut être cher payé parce qu'il faut rompre tous les liens antérieurs pour rentrer dans une démarche qu'on sait au départ un peu aléatoire. Je veux dire, il ne faut pas raconter de blagues, quoi. C'est comme ça. Mais c'est possible. Et des personnes ont bénéficié de ce type de parcours. Elles ont pu être aidées jusqu'à l'obtention de papiers et la possibilité de rester ici. C'est loin d'être systématique. Ben parce que le proxénète a déjà fait l'objet d'une dénonciation et qu'il soit déjà incarcéré, par exemple, la procédure étant close, il n'est pas évident que la même... Voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué. Moi, j'attends peut-être trop de cette fameuse loi qui devrait paraître une loi. Hein. Ce n'est pas simplement un décret, c'est une loi. Alors, voilà, on attend ça. En espérant que ça va soutenir réellement les personnes et les protéger, parce qu'elles ne le sont pas forcément, je veux dire, le retour au pays, c'est rarement une protection, sauf dans le cas de ce travail en réseau, il y a aussi un travail avec les pays d'origine. C'est-à-dire que si au terme de la procédure, une femme dit ben moi, je me rends compte que ma vie, elle n'est pas là, quoi, que ce que je veux, c'est retourner dans mon pays, retrouver mes enfants, etc., il va y avoir une prise de contact entre le service qui est, je veux dire, la tête de file du réseau et l'association humanitaire dans les pays d'origine pour identifier le danger éventuellement couru par les femmes. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place, qui se construisent de manière très modeste. C'est vraiment l'articulation entre les associations. On est encore loin de démarches internationales, quoi. Et on pense que dans des pays comme l'Albanie, enfin, il y a des tas de pays pour lesquels il ne faut pas rêver. L'argent noir est un argent qui fait fonctionner un certain nombre de pays encore. Et donc, je crois que imaginer qu'on arrive à de la transparence à ce niveau-là, pour le moment, on est dans des systèmes d'échange, de débrouille, un peu dans des micro-systèmes de protection. Mais bon, voilà, j'espère qu'au fur et à mesure que la démocratie dans tous ces pays avancera, on arrivera à élaborer des conventions un peu plus fortes à ce niveau-là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est encore le parcours du combattant, oui, c'est sûr.
La loi sur la sécurité intérieure fait passer les prostituées du statut de victime à celui de délinquante. On sait que derrière les prostituées étrangères, il y a un réseau et des violences. Nicolas Sarkozy, pour défendre sa loi, expliquait calmement qu'elle ne risquait rien en se faisant expulser du pays. Nous avons entendu que la réalité est tout autre, qu'il faut instaurer des liens avec les pays d'où viennent ces prostituées pour qu'elles ne soient pas dans des situations bien pires qu'elles ne l'étaient en France, pourtant condamnées à vendre leur corps. Les informations sur l'Amicale du Nid, c'est www.amicaleduny.org.
Si
Ainsi, dans cette émission, vous avez pu entendre un extrait d'un plateau JT France 2 de 2003 avec Nicolas Sarkozy. Vous avez pu aussi entendre Anna Karina dans un film de Jean-Luc Godard, Vivre sa vie.